Oui, mes chers collègues, 32 jours de l'élection présidentielle, la situation politique nationale chaotique sans précédent en temps de paix tétanise nos concitoyens. Dans 30 jours, en effet, l'actuel locataire quittera le palais de l'Élysée. Il convient donc, avant de tourner la page, de jeter un ultime regard sur le quinquennat qui s'achève. J'avais gardé un courrier que Jean-Claude Palmade, qui a siégé longtemps parmi nous, il était à la place de Maryse Berryer, m'avait transmis au début de l'année 2012, quelques semaines donc, avant la présidente élection présidentielle. Jean-Claude Palmade était le président du groupe socialiste, et certes, nous étions opposés politiquement, mais il y a toujours eu un respect mutuel entre nous, puisque les gens de conviction se respectent mutuellement, bien sûr. Et j'ai gardé donc le ristol et le dossier qu'il m'avait envoyé, et il s'exprimait ainsi. José, pour ton information et ta gouverne, je ne doute pas que tu y tireras profit pour le prochain débat budgétaire du document que je te transmets. Et le document qu'il me transmettait, donc le document, c'était ce document qui avait alimenté la campagne présidentielle du 22 avril 2012, dont le titre était « Le changement, c'est maintenant, mes 60 engagements pour la France ». Alors j'ai voulu rapidement parcourir, rassurez-vous, je ne vais pas évoquer les 60 engagements de François Hollande à cette époque-là, parce qu'il est intéressant de voir d'où l'on vient avant de se projeter sur où allons-nous. Et dans tous les cas, on va se rendre compte que si nos concitoyens n'apportent plus grand crédit à la parole publique ou à la parole des élus, ils ont quelques raisons d'ailleurs de douter. Alors, parmi les engagements, et j'ai conservé la preuve, j'ai conservé très engagement, nous avions d'ailleurs échangé avec Jean-Claude Flamand à cet égard, je l'avais remercié de la confiance qu'il me faisait en envoyant le programme du candidat François Hollande. Alors, j'ai relevé quelques annotations. Par exemple, le troisième engagement. Dans le troisième engagement, François Hollande disait qu'il engagerait avec les entreprises françaises un mouvement de relocalisation. De leurs usines. Voilà. Or, depuis 2012, on sait les milliers d'emplois industriels que nous avons perdus. D'ailleurs, dès le début de ce quinquennat, ça a commencé par l'installation de Renault au Maroc, pour construire les Dacia, avait créé 5000 emplois. C'était le premier déplacement. Et ça s'est terminé il y a quelques jours par l'exemple de Whirlpool, qui va s'implanter en Pologne. Donc, tout au long de ce quinquennat, il n'a jamais été interrompu, les délocalisations des entreprises n'ont jamais été interrompues. J'ai noté également le neuvième, alors c'est dans l'ordre où ils sont dans le document, hein. Ils sont plus ou moins importants les uns par rapport aux autres, mais j'ai noté le neuvième engagement. Et celui-là, il n'est pas tout à l'heure, puisqu'il dit, ce neuvième engagement, le déficit public sera réduit à 3% du produit intérieur brut en 2013. En 2013, c'est souligné. On sait tous, mes chers collègues, ce qu'il est advenu de ce neuvième engagement, alors que nous sommes 5 ans après les promesses d'avril 2012. On connaît le montant du déficit budgétaire, la dette, etc. Tous les chiffres ont malheureusement augmenté depuis le début de l'année 2012. Dans l'engagement 2013, il parlait de la construction européenne. Et il a indiqué dans cet amendement numéro 13 qu'il proposerait, qu'il ferait obstacle à toute forme de concurrence déloyale pour fixer des règles strictes de réciprocité en matière sociale et environnementale. Bon, on sait, avec les derniers exemples là aussi, sur le fameux débat sur les travailleurs détachés, ce qu'il en est, puisque tout ceci n'a pas été non plus réalisé. Alors, autre engagement intéressant, le 48e amendement que j'ai noté également, où il dit qu'il augmentera les pouvoirs d'initiative et du contrôle du Parlement et il fera voter une loi sur le non-cumul des mandats. Bon, on a un exemple à la tête de l'État où l'éminent ministre de la Défense et des Armées, Le Drian, qui est un bon ministre d'ailleurs, mais trouve le moyen, en plus de ses responsabilités nationales, de présider une grande région. Donc, je vois que, s'agissant du non-cumul des mandats, on a partout des contre-exemples. Et dans ce même engagement numéro 48, il indiquait qu'il introduirait une part proportionnelle à l'Assemblée nationale. Eh bien, on constate aujourd'hui que cet amendement n'a pas été respecté. Et également, le cinquième amendement, qui lui ne me dérange pas du tout, il est dit qu'il accorderait le droit de vote aux élections locales aux étrangers. Voilà, résident en France depuis 5 ans. Le fait que ça n'a pas été obtenu et réalisé, ceci ne me dérange pas. Et enfin, et pour terminer, je garde la meilleure pour la fin, il disait que il engagerait une nouvelle étape de la décentralisation. Alors évidemment, ça a annulé le conseiller territorial qui avait été mis en avant par son prédécesseur quelques mois avant l'alternance présidentielle. On sait ce qui est venu depuis du millefeuille administratif dans ce pays. Et il disait surtout, il concluait cet amendement, le 54, en disant qu'il garantirait le niveau des dotations aux collectivités locales à leur niveau actuel, d'avril 2012. On sait ce qu'il est advenu de non-respect, puisque le rapporteur Frédéric Laval rappelait tout à l'heure donc les pertes que nous avons enregistrées au niveau des dotations. Alors je crois qu'il est quand même intéressant de rappeler d'où nous venons. Quand on voit que sur les 60 engagements pour la France de cette époque-là, pratiquement aucun n'a été respecté ni engagé, il y a matière pour nos concitoyens à s'inquiéter évidemment et à mettre en doute la crédibilité de notre parole. Bertrand Barrère, le révolutionnaire, a créé le département des Pyrénées en 1790. François Hollande a essayé de le faire disparaître. Et bien qu'il n'y soit pas parvenu, l'horizon demeure incertain pour notre collectivité départementale. Et au sujet de ces interrogations que nous posons, certains ici, dont Frédéric notamment, nous a dit qu'il était capable de répondre sur le candidat qu'il soutient, M. Macron. Et moi, j'attends avec beaucoup d'intérêt le débat qui vient à mettre en présence, même si c'est là aussi un peu chaotique, les 11 candidats, puisqu'ils sont 11 à avoir obtenu les 500 signatures. Je cherche partout et je suis très attentif à ce que j'entends, justement, sur la fameuse réforme territoriale qui n'a pas été menée à son terme, le fameux millefeuille administratif, et surtout sur le devenir de notre collectivité. Je suis un militant de la défense du département, de la collectivité départementale, parce que c'est une collectivité de proximité. Et on détruit toutes les proximités au profit d'autres structures, comme cette grande région qui est derrière, l'Europe qui va en contrôle, etc. Vous connaissez ma position, etc. Et donc, je n'ai rien vu pour l'instant. Mais vous me rassurez, vous me dites qu'il a un programme, Macron. Je vais vous croire et que vous nous expliquerez peut-être quel est ce programme. Moi, dans tous les cas, ce que j'ai entendu et que je peux apporter en témoignage, les seuls candidats qui se sont exprimés clairement en disant que le département serait maintenu, que la commune serait privilégiée et que la région serait dissoute, c'est Marine Le Pen d'un côté et Nicolas Dupont-Aignan de l'autre. Alors j'attends, ça fait 11 candidats, deux j'ai entendu leur propos, et c'est avec beaucoup d'intérêt que je vais attendre le propos des 9 autres, parce que ça nous intéresse, on ne peut pas être indifférent. Bien sûr, il y a d'autres préoccupations, et les débats auxquels on a suivi, on n'est jamais rentré dans le détail de quid du devenir du millefeuille administratif français. Pourtant, ça nous intéresse tous. Alors, voilà donc quelques réflexions que je voulais faire quant au budget. J'en terminerai par là, sans revenir sur les chiffres quand même. Mais c'est vrai que nos compatriotes ont la tête un peu ailleurs en ce moment. Ils ont l'objectif sur cette élection présidentielle et notre débat est un peu décalé. Mais pourtant, bon, c'est un décalage de plus de 470 millions d'euros. C'est pas rien. Mais constatons que nos concitoyens pensent à autre chose. Alors, s'agissant du budget, j'ai pas d'autres observations à faire. Nous subissons les mêmes tendances lourdes depuis 4 ans. Du fait des politiques gouvernementales qui sont menées, c'est-à-dire que c'est toujours la hausse des transferts de charges, la IS, on en a parlé, c'est un poids de plus en plus lourd, c'est toujours donc une augmentation de nos dépenses et des transferts de charges, et corrélativement, de l'autre côté, c'est une diminution continue des dotations de l'État, et notamment la plus importante est celle de la DGF. Le chiffre de 28 300 000 a été repris par plusieurs de nos collègues. Alors pour conclure cette fois-ci définitivement, j'emprunterai à Bossuet cette célèbre formule que vous connaissez tous, bien sûr, et qui disait « Malheur à ceux qui critiquent les effets dont ils chérissent les causes ». Alors, je crois que dans cette définition, la majorité de cette assemblée doit se reconnaître, puisqu'elle critique régulièrement les transferts de charges, les diminutions de dotations que nous percevons, mais ça n'empêche pas cette majorité de gauche de soutenir, néanmoins, depuis le début du mandat de François Hollande, le président dans toutes les décisions qu'il a prises. C'est pas notre cas, c'est là que nos chemins se séparent, et c'est pourquoi nous ne voterons pas ce budget. Thank you.